émission est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïsa Costache.
Bonjour, bonsoir. C'est un auteur, compositeur, interprète libre et indépendant, un chanteur poète, enfant hypersensible d'un spin rock, au texte couturé de fêlures, un éternel amoureux des mots, des flots de mots qu'il crache à son public de fidèles. La fille du coupeur de joint est restée coincée dans l'ascenseur de 22h43, mais Hubert Félix Thiéfen est bien là avec son 17e disque, 3 ans après Supplément de mensonges et ses 2 victoires de la musique, album et artiste de l'année. Le nouvel album s'appelle Stratégie de l'inespoir. Il est sorti sous le label Columbia. Et vous m'en direz des nouvelles.
En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, où la faune et la flore joue avec les langueurs de la nuit qui s'étale, livre de sa moiteur. En remontant le fleuve où d'étranges présences invisibles nous guettent et murmurent en silence, où sale et fatigué sous les ombres englouties, nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit en remontant le fleuve. En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des clameurs et des foules insipides, où nos corps épuisés sous la mousse espagnole ressemblent au marbre usé, brisé des nécropoles, où nos tonniers des brumes dans l'odeur sulfureuse des moisissures, des pavés des marécageuses, nous conduisons nos âmes aux frontières du chaos, vers la clarté confuse de notre ultime écho, en remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des aveux de nos désirs avides.
Bonjour Hubert Félix Thiéfen.
Bonjour.
En remontant le fleuve, c'est ce titre qui ouvre l'album, c'est un titre 100% Thiéfen.
Oui. C'est le premier titre sur lequel j'ai travaillé quand j'ai pris un peu peur du succès du précédent album.
Pourquoi peur ?
Le succès, ça fait toujours un peu peur. On sait pas si c'est pas la fin, quoi. Donc là, en ce qui me concerne, dès le printemps 2011, c'est-à-dire 2 mois après la sortie de l'album, je me suis remis au travail, et notamment sur ce titre.
Un texte 100% alexandrin aussi.
Ah, c'est possible.
Ah non, c'est pas possible. Enfin... Bien sûr, j'ai bien compté sur mes petits doigts boudinés quand même.
Hein. C'est pas des. Nous, on est dans l'oral, hein, donc les alexandrins, ils flottent un peu parfois.
Hein. Oui, vous êtes dans l'oral, et c'est vrai que ce qui frappe en écoutant cet album, et en particulier en écoutant cette chanson, c'est votre phrasé. Vous essayez de mettre de la force, de l'esprit dans chacun des mots, dans chacune des syllabes.
Oui. Oui, parce que une chanson, c'est environ 3 minutes, donc chaque mot est important. Et j'essaie, à ma manière, de mettre le plus d'images possible, puisque c'est les images qui m'intéressent.
Ce sont des images que vous mettez à l'intérieur des mots.
Donc, en principe, un mot, il représente pour chacun une image, au moins une, qui n'est pas forcément la même sur le même mot.
C'est pas bon.
Le deuxième mot va amener une deuxième image, mais les deux, l'un à côté de l'autre, peuvent amener une troisième image. Hein. Donc, déjà, on a déjà mis une image de plus Donc j'essaie de fonctionner comme ça, et puis aussi pour que chacun puisse se raconter son histoire. Quoi.
Mais vous fonctionnez comme ça au moment de l'interprétation, au moment de l'écriture du texte?
J'interprète en même temps. C'est-à-dire, moi j'écris toujours, en ce qui concerne cet album-là, j'ai tout écrit avec une guitare. Après, il y a des mélodies que j'ai confiées à d'autres. Je me suis parfois mis dans le casting.
Oui, parce qu'il y a Jeanne Chéral, qui fait par exemple Mytilene Island, qui est un titre plutôt intimiste. Il y a aussi Kali. Il y a Armand Méliès aussi qui est présent sur plusieurs titres de cet album. Pourquoi eux? Et pourquoi pas vous-même? Vous auriez pu tout faire tout seul?
Non, parce qu'il y a un moment, les mots m'embarquent et je laisse un peu tomber la musique, d'autant plus que quelque part, je connais pas mal de bons, très bons compositeurs.
Oui.
Par contre, les mots, j'aime bien me les réserver. Donc, il y a un moment, plutôt que d'aller chercher l'accord qui va amener quelque chose dans la chanson ou dans le son, je préfère aller dans les mots. Il y a eu des chansons où j'ai gardé effectivement mes propres musiques. C'est le cas pour Karaganda aussi, c'est le cas pour Toboggan. Il y a eu d'autres morceaux où ma musique n'était pas mauvaise, mais parfois je trouvais que j'étais un peu trop influencé, un peu trop bousculé par des gens comme Bob Dylan. J'ai préféré faire quelque chose de plus original.
De plus original. Alors Karaganda, dont vous venez de parler, Hubert-Félix Thiéphaine, c'est le nom d'une ville du Kazakhstan. Hein. C'est là qu'était installé un camp de travail.
C'est même une ville qui a été faite par les prisonniers.
Oui. Et c'est une façon pour vous, à travers cette chanson, de dénoncer le communisme ou le stalinisme plus précisément?
Dénoncer, c'est beaucoup dire. C'est juste pour remettre les pendules à l'heure par rapport à l'histoire. Staline, c'était la même monstruosité que Hitler. Hein. Les deux l'un à côté de l'autre, lequel est le plus fort, je sais pas.
Oui, c'est-à-dire que beaucoup de gens dans la chanson française en ce moment dénoncent plutôt la peste brune, hein, pour faire simple. Vous vous êtes dit, il faut remettre les pendules à l'heure, comme vous venez de dire, c'est-à-dire rééquilibrer la critique.
Attention, j'ai pas dit que la peste brune.
Non, mais c'est étonnant.
C'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de condamner la barbarie. Or, on a eu deux phénomènes quand même assez puissants au XXe siècle. Entre Hitler et Staline, qui étaient des barbares, enfin qui ont organisé une politique de barbares. Et il faudrait arriver à se dire plus jamais ça. Et plus jamais on va du côté de Staline, plus jamais on va du côté d'Hitler.
Oui.
Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'un monde qui soit un peu plus vivable.
Oui. En fait, ce que vous dites aussi à travers cette chanson, Hubert-Félix Thiéphaine, c'est qu'on n'a pas voulu voir et qu'on a été un peu complice quand vous dénoncez, par exemple, la rime racoleuse d'Aragon et d'Elsa.
Oui,
ça va pas faire plaisir à tout le monde. Hein.
C'est par rapport à George Orwell, par exemple, qui lui, en revenant du même voyage. Dans les années 30, qu'ils ont été en Crimée, je sais pas où, ils se sont baladés un petit peu en Union soviétique. George Orwell, lui, il ramène la ferme des animaux. On n'est pas du tout dans le système d'Aragon, là.
Les médias aussi, hein, vous les épinglez dans cet album et à travers eux, la société, et plus précisément dans cette chanson qui s'appelle « Médiocratie ».
Question gun et machicouli, un chial vaut 2000 hoplites, mais au rayon philosophie, on est resté chez Démocrite. On joue les chasseurs d'arc-en-ciel, meublés chez Stark et compagnie, mais on sort d'un vieux logiciel, made in Neanderthal City. Médiocratie, médiocrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiocrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiocrité. Dans le grand jeu des anonymes, la fiction s'adoube au virtuel. On s'additionne, on chat, on frime, et l'on se soustrait au réel. Baiser grave et manipulé, devant nos écrans de Facebook, on n'a qu'un pseudo pour rêver et s'inventer un autre look. Médiocratie, médiocrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiocrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiocrité, et frères humains, frangins.
immédiatité.
Médiocratie, Hubert Félix Thiéphaine sur RFI dans Vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de vivre dans un monde médiocre?
Oui, je crois plus que jamais.
À cause des réseaux sociaux, à cause des nouvelles technologies?
Non, pas seulement, à cause de tout ce qui se passe. Enfin, j'ai jamais été tellement positif vis-à-vis de ma vision, dans ma vision du monde. Je me souviens que déjà, quand j'étais plus jeune, je me sentais pas très à l'aise dans la société, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est complètement généralisé partout. Quoi.
Oui, et pourtant, vous n'êtes pas un misanthrope, parce que quand on écoute attentivement les paroles de la chanson, on se dit, mais attendez, on manque d'humanité, donc ça veut dire que l'être humain, vous l'aimez.
Oui, quelque part, j'aime pas le mot espoir, justement.
C'est oui, on va en parler avec le titre de l'album, mais Stratégie de l'inespoir.
J'aimerais bien espérer en l'humanité, oui, mais c'est difficile.
Mais vous pouvez pas.
Ben, c'est-à-dire, j'y arrive parfois. Vous voyez, quand on balance un truc sur une comète, ça me fait plaisir. Je me dis quand même, là, il reste encore un petit peu de Nietzsche dans l'homme, quoi. Ça me passionne, que l'homme puisse faire ce genre de prouesse. Mais à côté de ça, je sais pas, ne serait-ce que quand on regarde les infos, quoi, moi, je peux plus, j'ai du mal. Déjà parce que c'est coupé systématiquement par de la pub, donc c'est déjà très difficile à suivre. Mais quand on entend, notamment que ça soit dans la politique ou dans le sport, partout, tout est corrompu. Enfin, j'ai l'impression que c'est terrible, quoi.
Vous êtes tenté de vous résigner?
Je suis parfois tenté c'est ce que je fais d'ailleurs, de temps en temps, je mets un bandeau sur les yeux. Ce bandeau, c'est la forêt près de laquelle j'habite.
Oui, c'est la pochette de l'album, parce que vous vivez aussi effectivement dans le Jura, au cœur précisément de la forêt. Certains justement ont dit, vous êtes une espèce d'ours à l'intérieur de cette maison, c'est ça?
Ouais, enfin, faut pas exagérer. Non, je me considère pas comme un rustre qui vit en dehors de tout. Non, ou alors je serais plutôt un gentleman farmer, vous voyez, dans le genre. J'aime pas trop me salir les doigts ni aller gratter l'écorce des arbres.
Oui. Mais le monde que vous décrivez dans vos chansons, Hubert Félix Thiéphaine, est-ce qu'il est meilleur que le monde dans lequel nous vivons?
Souvent, le monde dans lequel on vit, il se décalque sur notre propre vision, donc on fait des cauchemars. C'est assez symptomatique aussi. Non, moi, je suis, comment dirais-je, tétanisé par la connerie, quoi. Parfois la mienne, hein. Et la connerie, que pour moi aujourd'hui, c'est quand même généralisé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses où je sursaute en me disant, oula, ça c'est super, quoi. Si, quelques exploits scientifiques ou des choses comme ça.
Mais quelle connerie vous énerve?
Par exemple, j'essaie de traduire des impulsions, des sensations. Je le fais mieux dans mes chansons que dans des discours. Mais le fait que l'homme ait besoin de commercer, enfin de faire de l'échange, je trouve ça bien, ça. Depuis le début de l'humanité, il y a eu ce genre d'échange. Moi, je sais faire pousser les radis. Si toi, tu élèves le poulet, on peut peut-être s'arranger pour mettre... Bon. Mais là, on en est... Je vous dis, j'arrive plus à écouter les infos, parce qu'au bout de 2 minutes, on a un quart d'heure de pub. Et on nous dit, à suivre, bientôt, vous allez entendre la suite. Bon. Ouais. Et il y a de nouveau 2 minutes de pub, et puis 2 minutes d'infos, et puis de nouveau de la pub.
On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'expliquer.
Moi, j'ai besoin de m'informer, comme tout le monde. Mais il faut 1 heure pour avoir 3 infos, quoi. C'est un exemple. Ces histoires de gadgets, je vois la moitié de l'humanité joue avec des gadgets, quoi. Des trucs qui sont des histoires de mode, même pas des histoires d'utilité. Et tout ça, moi, enfin, je sais pas, j'ai du mal à suivre ce genre de mouvement, parce que je trouve ça un peu léger, un peu... Il y a peut-être autre chose à s'occuper pendant une vie, quoi.
Et les chansons, ce sont des pansements sur ces blessures-là?
Je passe des colères. On est dans médiocratie, c'est une colère, quoi. Bon, ben voilà, je vais mieux après. Je l'ai dit. Hein, moi, je me suis soulagé, oui.
Il est temps de se parler. Sois relax et laisse-toi aller. Tu es jeune, t'as du cœur, pas beaucoup d'heures au compteur. Trouve une fille, un bon job, ou voyage au bout du globe. Vois ma vie, j'ai vieilli, mais j'en ai joui. J'étais jeune comme toi, et je sais que c'est pas aisé d'être cool quand on doit se contrôler. quand on veut faire de sa vie un enjeu ou un paradis, faut garder ses rêves debout jusqu'au dernier cri. Comment trouver l'étincelle quand ça tourne au désespoir? C'est toujours l'éternelle même vieille histoire. Chaque fois qu'on veut parler, on nous demande d'écouter. Mais maintenant, je connais la route qu'il me reste à faire. La route que j'ai à faire. Il est temps de se quitter. Reste assis et laisse-moi aller. Tu es jeune, plein d'espoir, avec tant de choses à voir. Trouve une fille, un bon job, ou voyage au bout du globe. Vois ma vie, j'ai vieilli, mais j'en ai joui. Oublie ce temps où je taisais mes souvenirs et mes secrets. Le vent soufflait sur mon passé et mes pensées s'envolaient comme de vieux oiseaux blessés. Mais maintenant je connais la route qu'il me reste à faire. La route que j'ai à faire.
Père et fils, c'est le titre bonus de cet album Stratégie d'un espoir, Hubert Félix Thiéphaine. Titre bonus, et effectivement, il est extrêmement différent des autres. On se demande si on est sur le même album.
Non, c'est une adaptation de Cat Stevens, que j'avais déjà depuis un certain temps. Ouais. Parce qu'on m'a demandé un bonus, je trouvais que ça allait bien avec le contexte de l'album.
Oui, parce qu'en plus, c'est un album familial, puisque votre fils Lucas a coproduit
et a fait les arrangements.
Ouais. Oui, c'est cool de travailler en famille.
Oui, c'était pas prévu du tout, donc c'était assez surprenant au départ. Et puis c'était intéressant, oui, c'était parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'idées, qui a une grande culture musicale et qui m'a offert des choses magnifiques, quoi.
Oui, la musique, ça fait partie de la culture familiale.
Je sais. Depuis tout petit, il écoute de la musique à l'âge où les enfants regardent Bambi. Lui, il regardait les Blues Brothers. Donc, évidemment, ça, il le regardait en boucle en plus. Ce qui faisait qu'il avait déjà un répertoire très jeune.
Hubert Félix Thiéphaine, l'album commence en remontant le fleuve. Et ensuite, il y a cette route sur laquelle le père et le fils se retrouvent. Vous dites chaque album est une balise. Et c'est vraiment une question de voyage, effectivement, que cet album-là. Alors, où est-ce qu'elle est cette balise et sur quelle route se trouve-t-elle?
C'est le 17e album. J'aime bien les chiffres. J'avais écrit Le Fou a chanté 17 fois, donc voilà, j'arrive à un moment de ma vie où je commence à me méfier du futur. Donc, il se trouve que quand j'écrivais Le Chant du Fou, j'étais étudiant. Et j'imaginais pas qu'un jour j'arriverais à 17 albums. Hein, je me voyais pas partir si loin.
Oui. Mais il y a encore du chemin.
Pour l'instant, on roule.
Oui. Vous roulez et vous remontez le fleuve en même temps.
Oui.
Voilà, vous préférez ramer ou vous préférez rouler?
Je crois que je préfère rouler.
Quand même?
Oui. Oui, non, je préfère rouler. C'est plus facile encore que chez Sisyphe, c'est difficile aussi. Hein.
Oui, c'est sûr, mais lui, il n'a pas choisi. Hubert Félix Thiéphaine, on va marquer une courte pause, non pas pour la pub, mais pour les infos, vous voyez. Et on va parler des écrivains et des poètes comme Verlaine, Rimbaud ou Céline. Céline, que vous saluez d'ailleurs dans cet album avec notre second invité, l'écrivain Gérald Duchemin, qui préface une nouvelle édition des Poètes maudits de Verlaine, réédité par les éditions du Chat Rouge. Et vous m'en direz des nouvelles. L'émission est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Avec Hubert Félix Thiéphaine pour son nouvel album Stratégie de l'inespoir chez Columbia.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. La vitesse de la lune autour de nos orbites n'arrête pas les sanglots froids de l'humanité. Et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Mais gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Et lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites.
Stratégie de l'inespoir, Hubert Félix Thiéphaine sur RFI, c'est aussi le titre de l'album. Où est-ce que vous êtes allé chercher un titre pareil?
Ah, ça c'est des choses qui tombent un peu comme ça, on se réveille un matin ou on s'endort un soir avec des idées qui viennent. Bon, c'est ce qui s'est passé avec Stratégie de l'inespoir. Je sais que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai cherché pendant des heures. Oui. C'est venu comme ça.
Bon, on va parler de la stratégie tout à l'heure, mais l'inespoir pour commencer.
Alors, l'inespoir au départ... c'est vraiment venu, le mot inespoir est venu se placer dans le texte comme ça. Donc j'ai cherché dans le Larousse, ouais, pour avoir voir si la définition correspondait à l'idée que je me faisais de l'inespoir, étant donné que je plaçais un peu inespoir entre espoir et désespoir, comme on met un moral entre moral et immoral. Et en fait, le Larousse, il n'y avait rien.
Ah.
Il y avait inespéré, mais il n'y avait rien. Or, maintenant, on a un autre instrument qui est sans doute plus intéressant que les dictionnaires traditionnels, qui rajoute des nouveaux mots, mais qui en enlève, donc ce qui n'est pas très logique. Et il y a Internet, donc j'ai été voir sur Internet, beaucoup plus récemment, et j'ai vu que Verlaine parlait d'inespoir, je pense que c'est... Oui. Amour, sagesse,
non, vous savez, quand ce sont des mots comme ça qui circulent... En fait, vous pouvez le remplir de votre propre,
oui,
de ce que vous pensez.
Oui, voilà, l'intervention de Gérald Dufmain qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, si Hubert Félix Thiéphaine s'est adressé à vous, c'est parce que Verlaine, vous connaissez un petit peu, puisque vous publiez aux éditions Le Chat Rouge une réédition des Poètes maudits de Paul Verlaine, un livre publié en 1884, et c'est donc vous qui signez la préface. Alors, ce mot inespoir qu'on retrouve chez Drieux-La Rochelle aussi.
C'est ça. Et comme j'ai lu justement, comme j'avais lu les deux, peut-être même rapidement, mais peu importe, le mot s'est inscrit. Et un jour, il est ressorti, c'est un peu le principe de l'inconscient qui recrache à travers les rêves, ou parfois dans même à l'état d'éveil, qui nous renvoie des choses qui sont cachées au fond de nous. Quoi.
Oui, ô ces ressources, ô cet inespoir, ô ce provisoire, hein, écrivait Verlaine. C'est un bon résumé de l'état d'esprit et de la poésie de Paul Verlaine, Gérald Dufmain?
Ce serait difficile de résumer la poésie de Verlaine en trois mots, ou même en un vers. Je dirais que c'est un poète de la vie. Tout à l'heure, on parlait des bornes des albums de Thiéphaine. Je pense que Verlaine a été exactement dans ce cas. C'est-à-dire que si vous regardez les titres, enfin, la bibliographie de Verlaine, ça correspond aux étapes de sa vie. Et par exemple, bon, son premier livre, c'était poème saturnien, donc sous le signe de Saturne, qui est une planète néfaste ou qui alourdirait quelque part l'existence, qui empêcherait de respirer tout à fait normalement comparé aux autres. Bon, mais il le dit pas comme pour poser. Je veux dire, dès le début, alors pour écrire la préface, j'ai lu quasi trois biographies de Verlaine, et quand vous vous rendez compte en fait du rapprochement des dates entre deux Moïse et deux Dévennes, au bout d'un moment, vous commencez pas à rire, mais presque, parce que vous dites, mais oui, le sort s'est acharné sur ce bonhomme.
Oui.
Je veux dire, depuis le physique jusqu'au reste, quoi, hein.
Oui.
Alors, l'ironie du sort, c'est que, bon, les Poètes maudits ont été publiés en deux temps, voire même en trois temps. D'abord en premier, en 1883, en fait...
Une première édition avec trois poètes.
En fait, même pas avant. En fait, comme tous les poètes ou les écrivains qu'on publie au Charouche, sont des gens qui vivotaient de leur plume grâce à des publications dans les journaux. Et ensuite, seulement, en deuxième temps, en volume. Bon, alors, il y a un journal, le Lutès, qui commande à Verlaine donc des articles sur tel et tel poète. Il en écrit trois, et c'est souligné les poètes maudits.
Et ensuite, Tristan Corbière, voilà. Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé.
Voilà, et il y a l'année qui suit, donc la première édition des poètes maudits, avec trois petits profils.
Bon. Alors, on va s'arrêter là, parce que voilà. Je voudrais quand même qu'on entende Hubert-Félix Thiéphaine. Déjà, sur le côté poète maudit, est-ce que vous êtes un poète maudit, déjà, vous-même? Est-ce que vous considérez comme tel? Est-ce que vous êtes né sous le signe de Saturne, pour reprendre l'expression de Gérald Duchemin?
Jusqu'au début des années 80, j'ai passé 10 ans où oui, je me situais un petit peu... Dans cette lignée, moi, j'ai survécu un peu grâce à Knut Thompson, parce que j'avais lu la fin, et je m'identifiais un petit peu au personnage, ce qui m'a aidé à tenir les nuits où je savais pas où dormir à Paris, ou les jours où j'avais pas mangé. Je tenais un petit peu avec cette idée du personnage de Knut Thompson. Donc, ouais, puis avec mes propos, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens dans le showbiz qui m'ont dit que j'avais pas le droit de chanter, par exemple.
Ah, carrément.
Parce que je chantais Alligator 427, ou parce que je chantais La Dèche, Le Twist et le Reste, ou des choses comme ça. J'ai fait des premières parties, et il y a des artistes qui sont venus me voir à la fin, qui m'ont presque engueulé en me disant que j'avais pas le droit de chanter, quoi. Donc, à cette époque-là, je me sentais un peu maudit. Après, oui. On m'a dit que j'étais un chanteur maudit, que à cause des histoires des médias qui me boudaient. Mais à partir du moment où vous faites tous vos disques double disque d'or, on peut pas tellement se considérer comme un poète maudit. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me persécuter avec cette notion, quoi.
Oui, Gérald Duchemin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En antenne, c'est-à-dire que ces poètes maudits-là, la postérité leur a donné une aura,
c'est ce qu'il faut bien comprendre.
Qui
en fait,
un peu la malédiction.
Dans la préface, j'ai dit un poète maudit, c'est une vision du futur, c'est-à-dire que un poète maudit, ben c'est tout simplement un artiste véritable et qui découvre ou qui met à jour une sensibilité qui est probablement intemporelle, donc qui va lui survivre. Hélas, pour ces poètes maudits, la plupart n'ont pas connu la gloire du temps de leur vivant, ou alors c'était une gloire de café ou de cénacle. Mais par exemple, si on prend le cas de Villiers de l'Isle-Adam dont parle Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam...
Dans la deuxième édition, cette fois-ci.
Effectivement, maintenant, si on comptabilise tous les volumes de ces fameux contes cruels, bon, ben, on peut parler de méga best-seller, quoi. Il a été traduit dans le monde entier, etc. Mais du temps de son vivant, il était voilà.
Donc en gros, l'inespoir peut faire vivre d'une certaine façon sur le long terme, en tout cas, Hubert-Félix Thiéphaine.
Oui, non, mais je situe pas moi personnellement ma définition de l'inespoir. Elle correspond pas à ce que vous voulez me faire dire là, parce que pour moi, l'inespoir, c'est l'absence d'espoir, mais c'est aussi l'absence de désespoir. C'est-à-dire, c'est une sorte de no man's land où on peut prendre du recul. Mais on n'est pas un souffreteux, forcément. Vous voyez, on croit plus à cette illusion de l'espoir.
Oui, d'ailleurs, j'aime bien ce mot, et je le préfère à désespoir, que Seurat emploie un peu trop de manière systématique, parce que justement, pour tout artiste, le désespoir, enfin, quand on est plombé par une dépression, je suis pas sûr qu'on soit capable d'écrire ou de composer, enfin, je sais pas, mais il faut qu'il y ait au moins une marge de manœuvre, et que je trouve que l'inespoir, c'est plutôt bienvenu.
Je suis d'accord avec ça. On n'arrive pas à écrire si on est dans une phase extatique, par exemple, d'espoir, ni dans une phase de dépression. C'est entre les, justement, je crois que c'est vraiment dans ce, comment je dirais, lâcher prise, là, qu'on trouve des idées, quoi.
Oui, et pourquoi est-ce que le titre sur l'album, Stratégie de l'inespoir, est un titre barré? Alors ça, c'est une question qu'on s'est tous posée, parce que bon,
mais ça, c'est une idée du graphiste qui a voulu rendre le bandeau.
Le bandeau qu'on trouve sur la couverture de l'album, et sur vos yeux en même temps.
Oui. Voilà. C'est peut-être pour faire réfléchir, puisque si on ferme les yeux,
c'est un double titre.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant. Le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir,
paisible et silencieux. Au bras de la première boutique hier, je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux. Que mes anciens amis font tomber leur sentence. Les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première. Je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première boutique hier. Je tombais des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur, du fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides. Je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime. Je suis ton assassin, je suis ton déicide. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge. Je Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première bouteille vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir.
Angelus, c'est le premier single issu de votre album Hubert Félix Thiéfaine, avec une musique composée par Yann Péchin, le guitariste d'Alain Bachung.
Il était guitariste de Thiéfaine aussi.
Oui, aussi, parce qu'il faut pas l'oublier, mais ça, personne ne l'a oublié, mais je pense que c'est intéressant de parler de l'ange Alain Bachung quand même, parce que il est quand même très présent aussi dans cet album.
Il était chez moi avant.
Oui, voilà. Très bien. Premier. Alors, bon, l'Angélus, c'est cette chanson-là que vous avez gardée de vos années de petit séminaire, Hubert Félix Thiéfaine.
L'image des cloches, oui, c'est la journée était rythmée par les cloches, donc l'Angélus c'était toujours le bon moment, c'est là où l'estomac il commence à crier chaque fois. Bon, le soir c'était la fin de l'étude en plus. Non, l'idée, donc c'est très lointain déjà pour moi, mais souvent je vais me promener dans la campagne, et dans la campagne on voit plusieurs villages souvent, et il y a toujours le clocher.
Oui.
Et quand on tombe à midi, vers midi, à la campagne, ou le soir, par exemple, le matin, des fois, ils suppriment les cloches, hein, pour pas, bon.
C'est mieux, ça gêne moins, oui. Maintenant, on sait jamais.
Mais on entend les Angélus. Alors, il y en a qui commencent à midi moins 10, par exemple. Il y en a d'autres qui le font plus tard. Mais toute la campagne, à un moment, se met à vivre avec ces cloches. Et voilà quelque chose qui a traversé les siècles et qu'on a encore, donc ça fait des repères. Voilà, on n'a pas tout perdu quand même, il nous reste encore les cloches.
Et l'Angélus du matin, bah Verlaine en a fait aussi un poème, Gérald Duchemin. Oui, on en revient toujours à Verlaine, ou à Rimbaud d'ailleurs, puisque vous avez aussi beaucoup été inspiré par Rimbaud, Hubert Félix Thiéfaine.
Plus par Rimbaud
que par Verlaine. Mais vous les lisez, ces poètes maudits, régulièrement?
Oh, régulièrement. Verlaine, je l'ai découvert tardivement. Je l'ai découvert en fait par Léo Ferré. Il y a un poème où il parle des femmes. Ne le réveillez pas, madame. De grâce, ne le réveillez pas, madame. Il dort. Et je sais plus, il parle des pas des femmes. Et j'étais très, très touché par...
Alors, parmi ces poètes maudits, Gérald Duchemin, donc il y a Rimbaud, il y a Verlaine, Villiers-l'Isle-Adam, Marceline, Desbordes-Valmore, Corbière. Et puis, on a un dont on n'a pas encore parlé.
Oui, il y a qu'une femme, mais laquelle? Oui.
Oui, mais il y en a un, je voudrais quand même qu'on en dise un mot, parce qu'il est quand même pas très très connu encore aujourd'hui à travers le monde. Il s'appelle Pauvre les Lions. Vous pouvez nous le présenter?
Eh bien, Pauvre les Lions, c'est tout simplement l'anagramme de Paul Verlaine. Donc, Verlaine s'inclut dans la confrérie des poètes maudits. Alors, au départ, peut-être qu'il n'avait pas pensé s'inclure, puisqu'en 1884, lors de la première publication, il ne faisait pas partie des trois. Bon, il s'est inclus ensuite. Mais alors, on peut dire que parmi les grandes stars de la Dévenne et de la Poisse, Verlaine ne démérite pas. Parce que, entre ces deux dates, c'est-à-dire qu'entre les deux publications des Poètes Maudits, donc entre 1884 et 1888, son divorce est prononcé à cet or exclusif. Il ne peut plus voir son fils Georges et il doit des sommes pas possibles à sa femme Mathilde. Sa mère décède 2 ans plus tard et il s'ensuit pour notre pauvre poète une longue suite d'hospitalisations, suite à quoi il va crever. Et en même temps, ces hospitalisations, ça va être le début de sa gloire, puisqu'il mettait le poète juste à l'entrée de sa chambre d'hôpital, et il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, et il était parmi plein de bouquins. Et de...
Mais quand Paul Verlaine invente le personnage de Pauvre les Lions, est-ce que pour lui, c'est une façon de répondre? Autrement dit, ce livre-là, c'est pas seulement une anthologie, est-ce que c'est un manifeste?
C'est les deux, c'est un livre étendard, c'est une expression qui traverse tout le 19e siècle. Et je pense que, bon, tout à l'heure, Hubert Félix parlait de la prégnance, de la pression économique, mais sur tout le monde, pas simplement sur les artistes, à l'âge industriel, donc au 19e siècle, là, la pression a été encore plus forte. Il fallait pas simplement écrire ou des chansons ou des poèmes, mais il fallait répondre aux besoins des lecteurs, des lectrices. Donc, il y avait une professionnalisation des choses et de l'art. Et qui fait que beaucoup d'artistes amoureux de ce que eux voulaient construire, par leur propre œuvre, qui correspondait pas au goût du public du moment en tout cas, ou alors juste une petite coterie du public. Donc il restait sur la touche. Mais Verlaine s'est emparé donc du sujet, lui, et il en parle en connaissance de cause, on peut le dire.
Et parmi les poèmes signés Pauvre les Lions qui figurent dans ce livre anthologie et manifeste, il y a celui-ci, Tête de faune.
Dans la feuillée écrin vert taché d'or, dans la feuillée incertaine et fleurie, d'énormes fleurs où l'âcre baiser d'or vif et devant l'exquise broderie, le faune affolé montre ses grands yeux, et mord la fleur rouge avec ses dents blanches. Brunie et sanglante ainsi qu'un vin vieux, sa lèvre éclate en rire par les branches. Et quand il a fui tel un écureuil, son rire perle encore à chaque feuille, et l'on croit, épeuré par un bouvreuil, le baiser d'or du bois qui se recueille.
Gérald Duchemin, Pauvre les Lions et Paul Verlaine, c'est une même poésie ou sont deux facettes totalement différentes de la même médaille poétique?
Je suis pas sûr qu'on puisse se séparer. Oui, bien sûr, c'est lui qui... Alors peut-être que sur la fin, il se crée un personnage, mais ce personnage, c'était surtout la création de ceux qui l'entouraient. Mais lui, il a peut-être un peu appuyé aussi sur la chose, parce que il disait, bon, quand même, je suis à la fin de ma vie, il serait temps qu'on reconnaisse un peu ce que j'ai fait, etc. Mais donc sur la fin, il avait un éditeur attitré, il commençait à avoir son public, il ne s'auto-publiait plus comme beaucoup au début, donc il commençait à exister vraiment en tant que poète.
Hubert Félix Stéphane, ça fait 2 fois que Gérald Duchemin évoque cette notion de public, et effectivement, quand on est un poète, on écrit pour les gens aussi, on n'écrit pas uniquement pour soi. Quand on est un chanteur, quand on se produit sur scène comme vous, on doit aussi répondre, je ne sais pas si le mot vous convient, à une certaine attente du public. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion-là? Parce que ça ne doit pas être très très facile pour vous, je me trompe?
Disons que jusque-là, ça a marché en appliquant juste la formule « Si je suis fidèle à moi-même, en principe, le public me restera fidèle ». Et disons, depuis le début des années 80, ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire que lorsque je me retire, même si je suis dans le métro, je peux me retirer. Si je suis dans un lieu public, je peux me retirer dans ma solitude et bloquer les issues. Et si je me retire pour écrire, à ce moment-là, je ne pense plus du tout au public. Quand j'ai écrit et quand je compose, j'essaie de trouver ce qui va me plaire le plus, ce qui va m'étonner aussi. Parce que Il faut être un créateur aussi, c'est pas... Donc pour créer, il faut se provoquer soi-même déjà. Donc je joue à ce jeu avec moi-même, essayer de me repousser le plus loin, parce que c'est comme ça que je me sens libre, et je fais aucun effort, parce que je ferme la porte à ce moment-là...
Vous faites aucun effort dur d'écrire.
Mais je fais pas d'effort pour aller chercher le public. C'est-à-dire, là, les portes sont fermées et c'est une histoire qui me concerne que moi. Après, si je me suis surpris, je fais faire l'effort jusqu'à ce que ça me plaise et que je puisse l'intégrer, quoi que ça fasse partie.
Donc, vous remettez votre ouvrage sur le métier en permanence?
Absolument. Pour que je me retrouve le mieux dans cette histoire. C'est-à-dire que s'il y a deux mots qui viennent me casser la tête quelque part parce que je sens que c'est pas compatible avec le reste ou parce que ça va pas avec la façon dont j'ai envie de faire la chose, je vais passer un temps fou pour un mot ou deux, quoi.
Des fois. Vous êtes un forçat de l'écriture, Hubert Félix Thiéphaine, on peut dire ça.
Un forçat, je sais qu'à une époque on m'appelait le Piscopi, mais j'ai eu des mâles comme ça de brouillon, mais ça m'a passé. Je suis redevenu très
vous avez laissé votre boulet tranquillement.
Je garde la structure chanson, quoi. Donc je travaille sur cette petite chose qui s'appelle une chanson, quoi.
Débris d'hélice carbonisé, bruit des mots brûlés au phosphore, guignolets ferrés vitrifiés sur la butte à l'heure où ça mord, au beurre si fureur dans la danse. Pignol en transe, valse et gamète, rastaquer de la survivance, qui frappe le bleu dans sa tête. Esti grappataire effionté, navada mouillère à côté, gadouilleux camorus en rade, double de retour. À Céline Grave. C'est tout naf dans les rues de Sigmaringen, d'un château l'autre à port des passes, bien germaneux au Hohenzollern, en rentre son âme des profondis, dans les vapes des gaz hilarants, la mort a crédit d'un clown triste, ça fait bonder Sartre et Vaillant, Christi grappataire et fianté, la baladouillère à côté, la douille camorus du en rade. À Stalingrad.
Retour à Stalingrad, nouvel extrait de l'album Stratégie de l'Inespoir d'Hubert Félix Thiéphaine qui est avec nous. Pourquoi Céline, Hubert Félix Thiéphaine, un autre poète maudit peut-être?
Parce que j'ai relu pendant l'été 2011, comme c'était le 50e anniversaire de la mort de Céline, j'ai relu tout ce qu'il a écrit dans les années 50, c'est-à-dire le Pont de Londres, les deux volumes, les deux Ferry pour une autre fois, et puis la trilogie de... Et j'étais émerveillé, quoi. Il y a des pages, je les lisais quatre fois de suite. Je me dis, mais comment il fait, quoi? Or, quand on commence à se dire comment il fait, quoi, c'est qu'il y a du génie. Parce que moi, il y a deux auteurs du XXe siècle qui me donnent ça, c'est Proust et Céline.
Ouais, il apparaît aussi dans l'album, Proust, un petit clin d'œil.
Oui. Et donc, j'ai voulu faire ce que j'avais fait pour Rimbaud, dans l'affaire Rimbaud. J'ai voulu reprendre des petits bouts de Céline et d'en faire un morceau, puisqu'il y a un moment, je crois que c'est dans Ferry pour une autre fois, il demande sa statue, il demande sa place, il demande Stalingrad. Oui, j'ai bien dit Stalingrad, enfin il y a la citation exacte dans l'album. Donc, puisqu'il est interdit de fêter le 50e anniversaire de Céline, on va lui offrir sa Stalingrad.
Oui, c'est un écrivain maudit, Gérald Dujemin, que Louis Ferdinand Céline, à la fois adulé et maudit en même temps.
C'est difficile de dire pas un poète, puisque la poésie n'existe pas seulement dans les poèmes stricto sensu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très bien avec vous, Thiéphaine. Je pense que c'est très compliqué pour même des théoriciens de différencier une chanson d'un poème. Alors, je sais bien qu'un poème, lui, ne se défend que par les mots, tandis que la chanson se défend à la fois par l'interprétation, la musique, l'orchestration, le son, la voix, la mélodie de voix. Donc c'est un petit peu différent quand même. Et pour le roman, c'est vrai que bon, Céline, particulièrement Céline, mais on pourrait dire effectivement la même chose de Proust, il y a des passages qui sont tellement beaux que soit on les relit, soit on arrête sa lecture. parce que c'est trop beau, le moment est trop fort. C'est plus possible, c'est un peu un alcool trop fort, on attend d'encaisser, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux, Gérald Duchemin. Les Poètes Maudits de Paul Verlaine, réédité aux éditions du Chat Rouge. Merci Hubert Félix Thiéphaine, l'album Stratégie de l'Inespoir chez Columbia et en concert au Palais des Sports de Paris les 16 et 17 octobre 2015. On se quitte en passant par le toboggan et vous m'en direz des nouvelles.
Fuir devant le toboggan. Et fuir devant. Devant le toboggan, là-bas devant le toboggan, là-bas devant le toboggan.